Bonsoir, nous sommes le jeudi 17 octobre. Comment déminer l'Ukraine? Près du quart de son territoire est aujourd'hui contaminé. La Suisse est mobilisée, elle l'a fait savoir aujourd'hui lors d'une conférence internationale organisée à Lausanne. On en parle dans un instant avec le directeur de la Fondation Suisse de Déminage.
Et de deux en Valais, un deuxième conseiller d'État s'en va. Après Frédéric Favre hier, c'est Roberto Schmitt qui renonce à briguer un nouveau mandat. Que se passe-t-il au gouvernement valaisan? L'élu centriste nous répond.
Cri d'enfant, conversation téléphonique, barbecue un peu arrosé. Il y a trop de nuisances sonores dans les parcs publics, c'est ce qu'estiment deux élus qui proposent d'aménager des zones de silence. Rendez-vous dans une demi-heure pour un débat feutré.
C'est la rockstar des médecins légistes. Le Belge Philippe Boxeau a rassemblé près de 700 personnes hier à Lausanne. Conférence, séance de dédicace, ses livres s'arrachent. Il est en Suisse et fait un crochet dans Forum.
Dans la prochaine heure, on reviendra aussi sur la cohabitation toujours difficile entre cyclistes et automobilistes. Et on vous expliquera pourquoi la RTS va supprimer 46 postes et plusieurs émissions.
Forum, c'est une heure d'actualité en direct sur la première et RTS2. Bienvenue.
Forum, Renaud Malik, Coralie Claude.
Le déminage humanitaire de l'Ukraine est un processus qu'il faudra soutenir à long terme. Une cinquantaine d'États ont dressé ce constat à Lausanne aujourd'hui.
Oui, les délégations ont signé un appel aujourd'hui, au premier jour donc de cette conférence qui doit en durer deux. Gabriela Cabré, vous en revenez. Cet appel, concrètement, il va changer quoi sur le terrain?
Alors les effets ne se feront pas sentir immédiatement. C'est une déclaration consignée la quasi-totalité des États présents. Un appel pour que les terres contaminées par des mines et des explosifs soient à nouveau sûres. Car l'Ukraine détient aujourd'hui le triste record d'être le pays le plus miné du monde. Les États s'engagent aussi à favoriser les coopérations sur le long terme, à aider, à piloter des projets sur place. Aucun montant pour soutenir le déminage en Ukraine n'a toutefois été formulé.
Et ça répond aux attentes de l'Ukraine.
Alors débloquer des financements n'était pas le but de cette conférence. L'idée était avant tout d'échanger sur les meilleures technologies et pratiques à adopter en matière de déminage, notamment avec des pays qui ont dû ou doivent encore y faire face, la Croatie par exemple, ou encore le Cambodge. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Ukraine a besoin de soutien et elle l'a fait savoir aujourd'hui par les voix de son premier ministre et de sa ministre de l'économie. Il manque en Ukraine des machines de déminage et des structures pour les construire sur place. Nul doute qu'ils attendent aussi des États présents qui libèrent des fonds. La Suisse est d'ailleurs un des pays les plus généreux en la matière et elle a voulu montrer l'exemple en accordant un financement de 30 millions de francs jusqu'en 2027 à la Fondation Suisse de Déminage. Elle a décidé de l'annoncer juste avant cette conférence.
Et justement, quel est le rôle de la Suisse dans cette conférence?
Le rôle de co-organisateur et d'hôte, avec un conseiller fédéral en charge du département des affaires étrangères, Ignacio Cassis, très présent dans les échanges. La présidente de la Confédération, Viola Amert, a elle ouvert la conférence par ces mots. Le déminage humanitaire fait partie de la tradition humanitaire suisse. Une tradition, il faut le dire, qui s'est intensifiée depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est surtout à partir de ce moment que la Suisse a débloqué des fonds conséquents pour le déminage.
Merci Gabriela Cabré. Cette conférence se poursuit donc demain à Lausanne.
Et avec nous quelques minutes, Hans-Jörg Eberle, directeur de la Fondation Suisse de Déminage. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous étiez encore récemment en Ukraine. Vous vous trouvez pour l'heure à l'école hôtelière où les discussions de la journée viennent de s'achever à l'instant. Est-ce que vous êtes satisfait tout d'abord des annonces du jour?
Oui, je suis tout à fait content des annonces du jour. Je veux dire, on a clairement pu établir les défis qui sont encore devant nous et les défis sont énormes en Ukraine. En même temps, il y a aussi un consensus des pays donateurs présents qu'on peut pas abandonner l'Ukraine. Au contraire, il faut continuer à soutenir financièrement, matériellement pour que le déminage puisse continuer et puisse avoir encore plus d'impact.
On évoquait à l'instant cette somme, 30 millions de francs versés par la Confédération jusqu'en 2027 à la Fondation Suisse de Déminage. Qu'allez-vous faire de cette somme ?
La Suisse finance la Fondation Suisse de Déminage déjà depuis bientôt 2 ans. Et nous avons un budget à peu près de 10 millions par an. Alors les 30 millions supplémentaires vont nous permettre de continuer à fonctionner les prochains 3 ans. Concrètement, en Ukraine, la FSD aujourd'hui a à peu près 800 collaborateurs dans 4 projets, dont un projet financé par la Suisse pour les 10 millions. Alors nous avons un programme très complet de déminage dans la région de Kharkiv, dans l'oblast de Kharkiv, et aussi dans le sud, à Kherson, où nous avons des démineurs qui font du déminage manuel, des machines, nous avons commencé à utiliser des chiens. En fait, nous utilisons toute la panoplie des outils à notre disposition pour venir à bout de ces mines et de ces munitions non explosées qui polluent les villages, qui permettent pas à reconstruire, qui permettent pas aux paysans de cultiver et qui mettent la population civile en danger.
Et l'un des buts de cette conférence ministérielle Hans-Jürg Eberle, c'est aussi d'associer la population ukrainienne au déminage. Qu'est-ce que les civils peuvent faire ?
Bah déjà, c'est les civils, en fait, qui font la plupart du déminage. Notre fondation emploie presque exclusivement des civils qui sont recrutés et formés par nos soins. Le déminage humanitaire, c'est une activité civile, ce n'est pas une activité militaire. Et voilà, les efforts ici, lors de ces conférences, sont essentiellement axés vers le déminage humanitaire, ça veut dire civil, qui devrait directement avoir un effet positif sur la vie des civils qui habitent en ces zones.
Le déminage actuellement en Ukraine se déroule dans un contexte de guerre, Hans-Jürg Eberle. Votre ONG a d'ailleurs été touchée par une frappe russe cet été à Kharkiv, en Ukraine. Que s'est-il passé depuis ?
Mais en fait, ce qui s'est passé, nous avions un très grand bâtiment, 4 étages, avec une centaine de places de travail, un peu à l'extérieur de Kharkiv, dans une zone industrielle. Et à 5h du matin, il y a un missile russe qui a frappé de plein fouet ce bâtiment. Et quand les collaborateurs voulaient venir au travail à 7 ou 8 heures du matin, il n'y avait plus de bâtiment. Heureusement, personne n'a été blessé, parce que ça s'est fait à 5 heures du matin. Mais c'était quand même bien curieux qu'un missile russe soit tiré sur un bâtiment vide de la FST. Et depuis, nous avons renforcé les mesures de sécurité, décentralisé davantage toutes nos infrastructures, nos machines, et pour tout mettre en œuvre pour que nos collaborateurs ne soient pas blessés. Parce que le déminage est déjà suffisamment dangereux, il ne faut pas qu'il y ait encore des actes de guerre qui mettent en danger.
Merci. Monsieur Hans-Jürg Eberle, une question encore peut-être. Ces livraisons de systèmes de déminage pour l'Ukraine, est-ce que c'est aussi indirectement une bonne affaire pour la place économique suisse ?
Alors, pour le déminage, les démineurs comme la FST utilisent une panoplie d'outils, des outils spécialisés, des détecteurs spécialisés, etc., des chiens, mais aussi des machines. Et il y a, en Suisse, il y a 2 producteurs de machines de préparation de sol. Bon, on les appelle aussi des machines de déminage. Une, c'est la Fondation Diger, au Jura. Et une autre, c'est la société GCS, qui est une société commerciale, qui est basée en Suisse centrale. Et les 2 ont pu livrer déjà des machines en Ukraine. Alors, je pense, oui, que pour ces 2 entités, vendre quelques machines en Ukraine, c'est une bonne chose. Maintenant, pour nous, la Fondation Suisse des Déminages, c'est seulement des outils, et nous achetons pas des machines avec notre argent, c'est avec l'argent des donateurs.
Hans-Jürg Eberle, directeur de la Fondation Suisse de Déminage, merci d'avoir été quelques minutes avec nous dans ce forum. Bonne soirée.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Et on l'a appris cet après-midi, le chef du Hamas, Yahya Sinwar, pourrait avoir été éliminé au cours d'une opération israélienne dans la bande de Gaza. Ariane Ménage, on vous retrouve tout de suite en direct de Tel Aviv. Que sait-on exactement à ce stade ?
Alors, de l'opération en elle-même, on sait encore assez peu de choses. Ce que la presse israélienne semble indiquer ici, c'est que c'est une opération qui n'avait pas été préparée à l'avance. Yahya Sinwar, si c'est bien lui, se serait trouvé vraisemblablement avec 2 autres membres du Hamas dans un bâtiment. Tous auraient été tués au cours de la nuit dernière par des soldats de l'armée israélienne. Alors, ce soir, en Israël, tout semble indiquer que le chef du Hamas a effectivement bien été tué. Les ministres du cabinet de sécurité israélien ont reçu, selon la presse locale, un message de confirmation. Et puis le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a lui publié un message sur X, anciennement Twitter, laissant finalement assez peu de place au doute. Mais l'armée israélienne, elle, n'a pas encore officiellement annoncé la mort de Yahya Sinwar. Après des prélèvements sur le corps, des tests ADN sont actuellement en cours, avant toute confirmation officielle. Mais si cette mort est confirmée, ce qu'on peut déjà dire, c'est que ça pourrait être un véritable tournant dans cette guerre. Yahya Sinwar est sans doute l'un des hommes les plus recherchés par Israël, celui qui était considéré comme le cerveau des attentats du 7 octobre, celui aussi qui est considéré comme l'un des chefs les plus radicaux du mouvement islamiste, dont il avait pris la direction politique également après l'élimination à Téhéran d'Ismaël Haniyeh en juillet dernier.
Ariane Ménage en direct de Tel Aviv. Tout de suite dans Forum, le programme d'économie de la RTS qui s'est précisé aujourd'hui.
Et on en parle avec son directeur. Bonsoir Pascal Crétin.
Bonsoir.
La RTS qui va donc licencier 19 personnes et supprimer plusieurs émissions dans le cadre d'un programme d'économie à 10 millions de francs. Programme qui doit permettre de pallier la baisse des recettes publicitaires et la réduction de l'indexation de la redevance à l'inflation. À la radio, le journal de 22h30, le magazine de reportage 15 minutes ou encore la chronique à voix haute disparaîtront. Côté TV, Sport Dernière, Vivant, Nouveau ou Helvetica cesseront d'être diffusées. Pourquoi ces émissions-là ?
Alors on a fait une évaluation en fait d'abord en regardant finalement le rapport entre les coûts et l'audience. Il se trouve qu'il y a évidemment dans une grille de programmes qu'il y a des centaines d'émissions. Là vous en avez cité un certain nombre, mais il y en a encore énormément. Hein. Il y a évidemment des émissions qui sont un peu moins écoutées, un peu moins regardées. Donc on a aussi évalué ça, le bénéfice avec les coûts si vous voulez. Et d'autre part, parce que c'est important, on a deux yeux, d'autre part c'est le mandat de service public. Et on a toujours veillé à rester très fort dans l'information, la culture, le sport, bref, à remplir le mandat de service public.
Donc aux auditeurs, aux téléspectateurs qui regardaient ou écoutaient tous les soirs le 22h30 ou Sport Dernière, vous dites quoi ? Qu'ils n'étaient pas assez nombreux en fait.
Alors vous savez, ces émissions, on les a portées, on les a créées, on y est tous attachés, hein, et moi aussi. Et donc c'est chaque fois un crève-cœur d'arrêter une émission. Mais à la fin, il faut trouver ces 10 millions, ça c'est sûr. Ben, moi je dis à ce public qui écoute, comme il m'arrive d'ailleurs de le faire à 22h30 dans la voiture quand je rentre d'un concert ou que sais-je, je dis effectivement vous n'aurez plus à ce moment-là le journal. Force est de constater qu'aujourd'hui, on est quand même continuellement informé grâce à l'application RTS Info, par exemple. Et puis, entre 22h et 23h, il y a quand même aussi deux flash informations qui sont toujours là.
Plusieurs émissions supprimées, 19 personnes licenciées sur près de 1800 employés, des postes qui seront non repourvus, des départs à la retraite anticipés. Au total, ce sont 46 équivalents plein temps qui disparaîtront. Est-ce que ça va suffire pour économiser ces 10 millions ?
Alors, pour l'instant, ça suffit, puisque le plan d'économie est bouclé maintenant. Pour faire simple, sans, disons, inonder le public de chiffres, plus de la moitié des économies sont des économies qui ne touchent pas le personnel. C'est donc des économies en francs, si vous voulez. Mais là, j'aimerais dire, c'est important, en fait, ça va toucher indirectement des fournisseurs, des gens à qui on achète des prestations, des maisons de production externes, des gens à qui on achète des biens et services. Donc la redevance, elle crée de la richesse aussi. Hein. Et donc quand on coupe aussi de la redevance, quand on reçoit moins de redevance, disons, parce qu'elle n'a pas été encore réduite pour l'instant, eh bien ça a un impact aussi sur l'économie. Puis le reste, moins de 50%, c'est effectivement, vous l'avez dit, des mesures qui touchent le personnel. Mais là, heureusement, on a pu jouer sur les effets de retraite, parce qu'on a une démographie qui le permet, une courbe des âges, et sur des postes vacants. Et à la fin, il reste 19 licenciements et quelques retraites anticipées.
Pascal Crétin, le syndicat SSM estime que la RTS devrait puiser dans ses fonds propres. Ça représente un demi-milliard de francs. Plutôt que de licencier, pourquoi ne le fait-elle pas ?
Oui, d'abord, ce sont les fonds propres de la SSR, hein, parce que la RTS n'a pas de fonds propres. La RTS est une partie, une unité de l'entreprise SSR, n'a pas de fonds propres à nous, la RTS. C'est donc les fonds propres de la SSR. Alors c'est sûr, quand on dit aux gens un demi-milliard, c'est un chiffre considérable. Ok, mais il faut leur apporter, juste à titre d'exemple, le fait que le budget de la SSR, en quatre langues, chaque année, c'est 1,5 milliard. Donc, la trésorerie dont on parle, c'est juste un tiers d'une année. On est en train de parler de 4 mois d'une année. Ok. Ensuite de ça, on parle d'économie récurrente. Ces 10 millions, il faut les faire toutes les années. Et donc, si on vient chercher les 50 millions que doit faire la SSR dans ce trésor de guerre, entre guillemets, c'est plutôt cette trésorerie, c'est pas un trésor de guerre, eh bien, à ce moment-là, la SSR va prendre des risques. Elle doit couvrir des risques liés à la caisse de pension, couvrir des risques liés à la baisse de la publicité, couvrir des risques pour financer les plans sociaux, par exemple, aussi. Et donc, c'est pas possible, en fait, de faire les économies en allant chercher de l'argent dans le capital.
Vous avez bien parlé, Pascal Crétin, d'économie récurrente. Ça veut dire que d'autres émissions, d'autres programmes, à la radio ou bien à la télévision, vont passer à la trappe dans les prochaines années.
Ben moi, j'ai le triste devoir, avec tous mes collègues qui dirigent la SSR, de devoir appliquer un certain nombre de décisions qui sont prises. À partir de 2027, si tout se passe bien, c'est-à-dire si l'initiative de 100 francs est refusée, eh bien, il y aura la proposition du Conseil fédéral qui va entrer en vigueur, avec une baisse de la redevance qui va signifier pour nous 150 millions d'économies, 35 francs pour les ménages, à la fin c'est 150 millions avec tous les ménages qui payent. Et puis, avant cela, en 25 et 26, vous l'avez dit en introduction, c'est la baisse, le fait que le renchérissement n'est plus compensé, plus les pertes publicitaires. Donc effectivement, c'est un exercice un peu pénible de venir chaque année de devoir annoncer des économies comme celle-là, oui.
On va devoir s'y préparer, comme avec les primes maladie.
On va devoir s'y préparer, mais à la fin, quand même, disons, le service public est toujours là. on va se transformer et le public peut être sûr d'une chose, on sera toujours là au rendez-vous pour l'informer, le cultiver, le divertir, y compris sur les plateformes digitales, là où il est présent aujourd'hui.
Pascal Crétin, directeur de la RTS, merci de vous expliquer ce soir dans Forum. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Et Roberto Schmitt est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Futur ex-conseiller centriste valaisan, vous avez annoncé aujourd'hui votre souhait de ne pas vous représenter. Hier, c'était votre collègue du PLR, Frédéric Favre, qui annonçait la même décision. Vous quitterez donc tous deux le gouvernement valaisan au printemps prochain. Il se passe quoi au Conseil d'État valaisan? Il y a une mauvaise ambiance, Roberto Schmitt?
Pas du tout. On a su, comme d'autres cantons, c'est plus de difficultés suite à toutes les crises qu'on a vécues ces dernières années. Mais l'ambiance est très bonne. On collabore très bien ensemble. Et je crois que c'est ça qui est important pour chaque gouvernement.
Mais deux départs en l'espace de 24 heures, c'est quoi? C'est un hasard du calendrier
C'est un hasard parce que voilà, mon collègue Frédéric Favre, il avait l'opportunité d'avoir un autre poste et moi, je suis quand même, après 30 ans de la politique, c'est quand même un cycle qui se termine pour moi. J'ai été président de commune, j'ai été conseiller national, j'ai été maintenant conseiller d'État et je suis de loin aussi le plus âgé du gouvernement. Alors, je crois que c'est le moment pour moi aussi de choisir un peu entre cette vie politique quand même assez stressante ou une vie un peu plus apaisée.
Vous aviez une légère fatigue de la politique, Roberto Schmitt, après 30 ans?
Pas une fatigue, non, parce que comme ministre de l'énergie, je suis toujours plein d'énergie, j'ai eu beaucoup de succès avec mes dossiers, soit au Parlement, soit au Conseil d'État, je crois que c'est ça pas le problème, mais à 63 ans que je vais l'année prochaine, il faut prendre des décisions aussi pour avoir peut-être un peu plus de temps, consacrer plus de temps pour la famille, les amis, la musique. Je dirige depuis 40 ans de chorale, alors j'aimerais profiter encore ces dernières années avec vraiment plein d'énergie de créer quelques spectacles musicaux.
Vous avez mentionné les pèlerinages à Lourdes aussi dans le communiqué que vous avez publié aujourd'hui.
Ouais, c'est très important parce que depuis des années, je vais chaque année une semaine à Lourdes et j'aimerais quand même aussi maintenir parce que j'aurai plus de temps pour aider ces malades d'aller à Lourdes que tout seul ils peuvent pas aller. Et puis je crois que c'est quelque chose qui me tient à cœur.
Si on en revient à la politique, Roberto Schmitt, deux conseillers d'État de droite et du centre qui quittent le Conseil d'État, la porte est grande ouverte pour la gauche au risque pour le bloc de droite de perdre le deuxième siège du centre.
On a déjà envoyé un représentant du Parti Socialiste au gouvernement, ce qui était d'ailleurs déjà toujours comme ça. Et puis je crois maintenant quand deux postes sont vacants, c'est clair que tous les autres partis, notamment si je pense aussi les Verts, qui vont présenter des candidatures. Mais après, à la fin, c'est la population qui va choisir dans quelle direction ça va aller.
Hier, nous étions avec deux députés valaisans qui nous disaient, Roberto Schmitt, les deux, qu'il était temps maintenant de féminiser un petit peu cet exécutif valaisan, de faire élire une femme. Est-ce que vous êtes de cet avis?
Je crois que ce qui est important, c'est que la personne qui sera élue, ou les deux personnes qui seront élues, qui sont des personnes qualifiées, qu'on peut aussi collaborer. Moi, j'ai travaillé le premier 4 ans avec une conseillère d'État, d'ailleurs la première en Valais, mais on a Esther Weber, Kramer-Matten, et maintenant, c'est la deuxième période, on n'avait pas de femmes. Ça change pas tellement, mais c'est vrai que c'est important que aussi les femmes sont représentées dans la politique, ça c'est très important. Mais si le peuple choisit un homme au lieu d'une femme, voilà, c'est le choix de du peuple qu'il faut respecter.
Vous appelez votre parti, le centre, à présenter une femme pour vous succéder?
Ça, je peux pas dire. C'est pas à moi de choisir mes successeurs. Le parti va maintenant prendre les contacts avec les potentiels candidates et candidats. Ils vont sûrement aussi contacter des femmes. Et après, à la fin, qui va être choisi, qui va être porté candidat, c'est pas mon choix.
La politique, c'est aussi affaire de symboles. Quand même, Roberto Schmitt, quand vous dites, bon, homme, femme, finalement, ça change rien. L'important, c'est la compétence. C'est quand même un signal assez particulier qui est envoyé au public, un exécutif exclusivement composé d'hommes.
En fait, c'est un mauvais signal, peut-être, on peut interpréter comme ça, mais c'est aussi autant important d'avoir des chefs de service, des chefs d'office, autres, des députés au Parlement qui sont des femmes. Alors, je crois que c'est pas seulement le niveau du Conseil d'État qui est déterminant, mais j'ai pas dit que j'aimerais pas avoir une femme au gouvernement. Bien sûr, ce serait bien pour la diversité, mais si, pour des raisons que moi je peux pas influencer, c'est des hommes qui sont sont élus au Conseil d'État. Il faut respecter cette volonté.
Ben on le saura en mars, date des élections cantonales valaisannes. Merci beaucoup Roberto Schmitt, futur ex-conseiller d'État. Bonne soirée à vous.
Merci à vous.
18h20, vous écoutez Forum. Dans quelques minutes, on questionnera la place du bruit en ville. Faut-il introduire des zones de silence dans les parcs ou au bord du lac? C'est le souhait de deux élus lausannoises. Et puis, on reviendra aussi sur la cohabitation entre cyclistes et automobilistes. Mais pour l'instant, place à l'actualité internationale. Air Force One se posera à Berlin ces prochaines heures. Joe Biden va y effectuer une visite éclair pour rencontrer le chancelier allemand Olaf Scholz. Au menu de cette rencontre, l'Ukraine, mais aussi le Proche-Orient.
Les États-Unis et l'Allemagne sont aujourd'hui les deux principaux exportateurs d'armes au profit d'Israël, mais ce soutien est de plus en plus remis en cause. Bonsoir Gilbert Casassus.
Bonsoir.
Professeur émérite en études européennes de l'Université de Fribourg, grand connaisseur de l'Allemagne. Comment interprétez-vous tout d'abord cette visite de Joe Biden uniquement en Allemagne? Ce n'est pas une tournée européenne comme Joe Biden a l'habitude de le faire. L'idée, c'est de soigner cet allié particulièrement important.
Alors, c'est une visite d'adieu, il faut être clair et net. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il choisit la République fédérale d'Allemagne et pas les autres pays. C'est-à-dire que clairement, il y a un signe politique qui est envoyé d'amitié entre les États-Unis et l'Allemagne, mais aussi c'est un signe d'amitié de l'Allemagne vis-à-vis des États-Unis. Et il faut savoir qu'en Allemagne, il y a une crainte qui est très manifeste, c'est la victoire de Donald Trump si elle intervient au mois de novembre.
Pourquoi est-ce cette perspective inquiète particulièrement les Allemands?
Parce que pour eux, Donald Trump, c'est véritablement l'image des États-Unis qu'on n'aime pas en Allemagne. On aime bien un gouvernement démocrate, quoique dans le passé, les républicains, c'était par exemple très bien entendu avec Helmut Schmidt. Mais si vous voulez, ce que représente aussi idéologiquement Donald Trump est considéré comme quelque chose qui ne représente plus du tout les valeurs d'amitié entre la République fédérale d'Allemagne et les États-Unis.
Alors on le disait tout à l'heure, l'un des enjeux de ces discussions qui vont avoir lieu entre Olaf Scholz et Joe Biden, c'est le soutien à Israël, soutien qui pour l'instant a été quasi total. On l'a dit, ce sont deux pays qui sont les principaux exportateurs d'armes en direction d'Israël, mais on voit que ce soutien est de plus en plus contesté par les opinions allemandes et américaines. Il y a beaucoup d'inconnus aujourd'hui.
Il y a beaucoup d'inconnus, mais malgré tout, quand on fait la comparaison avec d'autres pays européens, on n'a pas vu le chancelier Scholz tenir des propos aussi provocants que ne l'a fait Macron à l'égard d'Israël. Donc on est encore dans une situation d'amitié ou de confiance vis-à-vis d'Israël. Mais c'est vrai que dans l'opinion publique, et notamment au sein de la gauche, et plus qu'on se dirige vers l'Est, il y a des critiques justifiées ou non, mais des critiques certes envers Israël. Et là, on voit que les critiques qui sont adressées à travers toute l'Europe, dans toute l'Europe pour Israël, se trouve également en Allemagne.
Gilbert Casassus, l'autre dossier qui sera abordé, c'est celui de la guerre en Ukraine. C'est la montée de l'extrême droite ici aussi en Allemagne qui influence le contexte. L'extrême droite plus favorable à Moscou qu'à Washington. Là, ça change aussi les lignes en Allemagne.
Alors, vous avez fait un lapsus, aujourd'hui, ça arrive, mais très beau, la grève. Eh bien, il y a quand même une petite grève aussi. Il y a aussi quand même une grève quelque part en Allemagne vis-à-vis de l'exportation d'armes vis-à-vis de l'Ukraine. On est d'accord sur certains types d'armes, mais par exemple sur les taurus, on est beaucoup plus réticent. Ce qui est intéressant, et là la question que vous posez est véritablement une question d'actualité, mais une question très profonde. Je l'ai noté lors d'un voyage très récent que j'ai fait à Berlin, et je dirais même à Berlin-Est, il y a une sorte de retour, de nostalgie, mais pas de nostalgie culturelle, pas de nostalgie romantique, mais une sorte de nostalgie politique actuellement dans la partie de l'Est de l'Allemagne, où c'est là où l'AfD a fait ses meilleurs scores. Mais je regarderai non seulement l'AfD, je regarderai aussi le BSW, c'est-à-dire le Bündnis Sahara Wagenknecht, qui est un mouvement de gauche, qui est un mouvement qui, dans ses revendications, reprennent aussi dans le discours certaines phraséologies qu'on entendait il y a 35-40 ans. Et nous fêterons le 9 novembre prochain le 35e anniversaire de la chute du mur de Berlin. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de revival, pour prendre un mot très britannique ou très anglo-saxon, d'une pensée proche de celle qui s'exerçait ou qui s'exprimait il y a 35, 40 ans, etc., aussi en faveur de la Russie.
Donc Joe Biden va essayer de réactiver, raviver ce soutien de l'Allemagne à l'Ukraine.
Nous ne faisons pas d'illusions. Joe Biden n'y arrivera pas tout seul. Mais il est sûr et certain que c'est un signe qui est envoyé, c'est un signe politique qui est envoyé en disant l'Allemagne reste un allié extrêmement fidèle aux États-Unis. À l'égard des États-Unis, et dans un contexte, et je crois que ça c'est important, où l'Union européenne a des difficultés en politique extérieure, où il y a des difficultés au sein du partenariat franco-allemand, et certainement Scholz est en train de se placer, comme ça a souvent été le cas d'ailleurs dans la politique extérieure allemande, comme une sorte de pont entre Washington et l'Est de l'Europe.
Merci Gilbert Casassus d'être venu dans Forum nous éclairer sur les liens entre USA et Allemagne à l'occasion de la visite de Joe Biden dès ce soir en Allemagne. Bonne soirée.
Bonne soirée, merci.
À chaque jour, son lot de révélations sur l'affaire Mbappé.
Du nom de l'attaquant français du Real Madrid lié à une enquête pour viol en Suède, selon plusieurs médias suédois. Selon Le Parisien, Kylian Mbappé aurait eu une relation consentie avec une jeune femme et disposerait de messages à une tonalité positive. Mais le journal ne sait pas si la plaignante est bien l'autrice de ces messages. De son côté, Kylian Mbappé dit garder ses explications pour la justice au cas où il serait sollicité. Il devrait être titulaire samedi, en tout cas lors du match du Real face à Vigo en Liga espagnole. Son club continue à le soutenir. Valérie Demont vous retrouve à Madrid où l'ambiance est tout autre qu'à Paris.
Oui, à tel point que parfois on s'est demandé s'il y a bien une affaire Mbappé ici. Alors si vous regardez dans la presse sportive, notamment dans celle de Madrid, eh bien vous ne trouvez pas le scandale en une, il faut même le chercher patiemment sur les pages web de ces quotidiens. Dans le journal Marca, il y avait bien un article mardi, mais qui n'était pas mis en valeur et où le mot viol n'apparaissait pas dans le titre. Alors la presse sportive de Barcelone était un peu plus loquace, mais elle ne reprenait que les infos suédoises. Et aujourd'hui, franchement, il faut le vouloir pour chercher des infos. Hormis sur les déclarations de l'avocate de Mbappé. En fait, on parle surtout du joueur, mais pour des raisons uniquement sportives. Mbappé vient d'ailleurs d'être élu meilleur joueur du mois de septembre par les aficionados du Real Madrid.
Pourquoi cette affaire n'a fait quasiment pas de bruit ?
Alors écoutez, la presse sportive à Madrid, eh bien, elle est très pro-Real Madrid, sans grande surprise. N'oublions jamais aussi que le club du Real est puissant, très puissant. Il possède une énorme influence sur la presse. Et pour l'instant, c'est presque, eh bien, circulé. Il n'y a rien à voir. Le Real Madrid reste très serein. Il a les capacités, bien sûr, aussi de gérer un scandale. Le club soutient son joueur pour l'instant. Et selon l'AFP, ces accusations de viol sont qualifiées, je cite, de plus gros fake de l'histoire du sport par le club. Alors, il y a bien eu un moment de malaise quand même mardi, lorsque le Real Madrid a effacé Mbappé d'une photo dans une campagne promotionnelle avec Adidas. Le club a rapidement expliqué, eh bien, que Mbappé ne pouvait tout simplement pas y être, puisqu'il est lié à un concurrent, son sponsor Nike. En fait, pour le reste, tout est resté normal. Mbappé s'est entraîné mardi, le club a même diffusé des photos du buteur français.
Et ça va continuer comme ça, Valérie ?
Mais écoutez, là, rien n'est moins sûr. En fait, si l'affaire se complique pour Mbappé, s'il est formellement accusé de viol, par exemple, pas certain que le club agira de même. Le Real Madrid tient à sa réputation, c'est très important pour lui. Et les violences sexuelles sont prises très au sérieux ici, c'est une question sociétale. L'Espagne est en avance sur toutes ces questions et elle ne pardonnera pas un tel délit, à mon avis. Souvenez-vous de la condamnation en février dernier du joueur Dani Alves pour viol, un procès qui avait été très suivi par les médias.
Valérie Demont, notre correspondante en Espagne, merci. Cette question à présent, faut-il instaurer des zones de silence dans nos villes ? À Lausanne, deux conseillères communales vertes ont déposé un postulat pour en aménager, en tout cas dans les parcs.
Le but de préserver le bien-être des habitants dans des quartiers toujours plus denses. Mais ces zones de détente sont-elles vraiment nécessaires ? Devient-on un peu trop intolérant au bruit ? On va en débattre ce soir avec deux élus lausannoises, la verte Virginie Kyriakopoulos et Mathilde Maillard du PLR. Bonsoir.
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 Alors Virginie Kyriakopoulos, vous êtes une des élues à l'origine de ce postulat. Qu'est-ce qui vous a poussé à le rédiger ? Il y a une forme de ras-le-bol.
C'est surtout l'idée que on estime, ça nous tient à cœur chez les Verts, de faire en sorte que l'espace public appartienne à tous, que tout le monde puisse en profiter, que il y a différents types de besoins, et pour certaines personnes ce sera des activités bruyantes, et pour d'autres c'est des activités plus calmes.
En même temps, les rires d'enfants, les conversations dans les parcs, c'est la vie.
C'est la vie, et puis c'est très très bien comme ça. C'est pas du tout ce que le postulat recherche à éviter ou à interdire. On cherche pas du tout à interdire quoi que ce soit. On cherche plutôt à faire en sorte que une partie de la population qui a plus besoin de calme puisse y avoir accès.
Donc très concrètement, ce que vous proposez, ce sont des zones de silence. On prend un petit bout dans chaque parc et puis on décrète que c'est une zone calme. Sans enfants, sans portable.
Alors, c'est pas forcément sans enfants, parce que je pense qu'il y a aussi des enfants qui sont calmes.
Ah oui, et mais puis, pas forcément sur commande. Hein, on peut pas appuyer sur un bouton.
Non, et le but, et les parcs sont faits pour que les enfants puissent jouer dans les parcs. Non, le but, et ce serait pas forcément chaque parc. Ce serait, là, on a visé vraiment dans le texte des parcs d'envergure et le bord du lac, par exemple. Donc, des espaces qui sont quand même assez vastes et qui permettent justement de pouvoir aménager des espaces un peu plus calmes sans entraver les autres usages.
Ça vous semble une bonne idée, Mathilde Maillard, ces zones de silence?
C'est un postulat qui, en réalité, m'attriste un peu, parce que la vision que les Verts ont de l'espace public, elle est diamétralement opposée de celle que j'ai, de celle que mon parti, le PLR, a. Vous l'avez dit, Renaud Malik, la ville, c'est la vie. Et puis la vie, ça fait du bruit, parce que la vie, c'est la convivialité, c'est le partage. Je crois que je suis dans la même situation que beaucoup de citadins qui habitent dans un petit appartement dans le centre-ville, qui n'ont pas de terrasse, qui n'ont pas de jardin, et qui se retrouvent dans ces espaces, dans ces parcs, au bord du lac. Et qu'est-ce qu'on voit quand on va au bord du lac? On voit des enfants qui fêtent leur anniversaire, des familles qui se retrouvent autour d'un barbecue, des personnes âgées aussi qui viennent pour tisser du lien social, des gens qui en fait ont le sentiment d'appartenir à l'endroit où ils vivent, d'appartenir à une communauté. Et moi, cette proposition, je la perçois vraiment comme une attaque à nos habitudes de vie, à nos pratiques populaires, à ce sentiment de vivre ensemble.
Une attaque au vivre ensemble, une mesure quelque part antisociale. Vous répondez quoi ?
C'est tout l'inverse en réalité, parce que c'est vraiment le but d'élargir l'offre qui est faite en réalité. Il n'y a en aucun cas une... C'est de pouvoir permettre à un plus grand nombre de répondre à un besoin d'un plus grand nombre de personnes. C'est une variété de choix, en réalité.
C'est un peu une manière d'amener aussi la nature en ville pour les gens qui n'ont pas de jardin.
C'est certain. Moi, justement, et je pense qu'elle vise les personnes qui n'ont pas de jardin, qui n'ont pas de résidence secondaire, qui n'ont peut-être pas même de balcon.
Et qu'elles ont envie de faire du bruit aussi en ville.
Et elles auront tout à fait le droit de le faire. Et la ville est un espace bruyant et continuera à l'être. Simplement, maintenant, il y a quand même des problèmes de santé aussi qui interviennent. Et on est en droit, en fait, d'avoir quelques sas, quelques respirations, avoir un bol de calme, comme on prend un bol d'air, en fait.
Si on fait le parallèle, Mathilde Maillard, avec les trains, pendant longtemps, on a peut-être dit, on peut tout se permettre dans un train, on peut fumer, on peut faire du bruit. Et puis, au bout d'un moment, on a interdit, la cigarette, mais on a aussi interdit les portables dans certaines parties du train, puis personne ne s'en plaint aujourd'hui.
Oui, mais le train, c'est un endroit fermé par définition, donc je crois qu'il n'est pas tout à fait comparable à l'espace public, qui est au contraire ouvert. Je crois qu'aujourd'hui, les usagers et les usagères des parcs lausannois arrivent tout à fait à lire un livre ou à se livrer à des activités de repos dans l'espace public tel qu'il est, parce que l'espace public, c'est pas un lieu de non-droit. Il y a aussi des règles qui encadrent l'espace public et un règlement de police en l'occurrence. Et puis, si on veut amener la nature en ville et avoir des zones de silence et de nature à l'état brut, je crois que la ville de Lausanne a pris ses responsabilités. Et on a à portée de main ou même à portée de transport public, pour faire un clin d'œil à ma contradictrice, un parc naturel périurbain du Jora, qu'on a inauguré récemment, qu'on entretient et qui nous coûte extrêmement cher. Mais c'est tant mieux d'avoir ce lieu. Et je vois pas dans ce contexte pourquoi on devrait obliger les gens à faire des merguez silencieuses au bord du lac à Vidi.
Bon, c'est vrai que Lausanne, c'est pas Sao Paulo, c'est pas Bombay. On a des forêts à portée de, à portée de main, à 3-4 arrêts de métro, Virginie Kyriakopoulos?
À portée de main, c'est plutôt, enfin, il faut quand même faire un petit trajet. Et puis, force est quand même de constater que le besoin, il est là. Les habitudes, les technologies ont beaucoup évolué, les usages qu'on en fait aussi, et puis ça a un impact et ça demande aussi une adaptation.
Vous dites quoi, Mathilde Maillard, aux riverains qui en ont marre d'entendre de la musique et des gens faire la fête sous leurs portes parce qu'ils habitent tout près du parc de Morocco, par exemple?
Ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'il y a un règlement de police qui encadre ça, qui interdit de troubler la tranquillité pendant les heures de repos. Donc je crois que les mesures qui doivent être prises peuvent être prises quand les gens ne respectent pas ce qui est en vigueur. Et puis là où peut-être le seul point où je rejoins les postulantes à l'initiative de cette proposition, c'est qu'il y a en effet un enjeu dans l'espace public lausannois actuel. L'enjeu, c'est de rendre l'espace public aux habitantes et aux habitants. Et quand on voit ce qui se passe à Lausanne en matière de consommation de drogue dans l'espace public, de mendicité incontrôlée dans l'espace public, de déprédation de déchets dans l'espace public, là, oui, il faut prendre des mesures. Et je crois que la priorité aujourd'hui n'est pas aux zones de tranquillité dans les parcs, mais il faut se concentrer sur les vrais enjeux de l'espace public.
Mathilde Maillard du PLR, Virginie Kyriakopoulos, verte, vous aussi lausannoise. Restez un petit moment avec nous, on va revenir à présent sur un fait divers qui a choqué par sa violence. Ça s'est passé mardi à Paris.
Oui, un cycliste et un automobiliste ont eu une altercation. L'automobiliste percute ensuite le cycliste qui meurt de ses blessures. Il avait 27 ans. Ariane Hasler, on vous retrouve à Paris justement où une enquête a été ouverte pour meurtre.
Oui, voilà ce qui se serait passé selon les témoins. Nous sommes sur un boulevard près de l'église de la Madeleine. Le conducteur d'un SUV coupe la route à un cycliste qui se trouve pourtant sur une piste cyclable. Le jeune homme tombe, se relève, frappe un coup sur le capot du véhicule. La tension monte, l'automobiliste redémarre et renverse le cycliste. Le conducteur, âgé de 52 ans, a été interpellé sur place. Sa fille, adolescente, se trouvait aussi à bord du véhicule.
Ariane, les tensions entre les cyclistes et les automobilistes sont fréquentes à Paris.
Oui, alors de manière générale, ici, les tensions entre tous les usagers de la route sont légion. Voitures, scooters, bus, vélos, trottinettes et piétons, avec une agressivité qui est parfois assez phénoménale. Heureusement, ce qui s'est passé mardi, évidemment, est exceptionnel. Mais on est dans une grande ville où la circulation sur certains axes est chaotique, avec une multiplication des moyens de transport, une explosion notamment justement du nombre de vélos depuis le Covid et une vraie volonté de faire de la place aux mobilités douces, une volonté de la maire, Anne Hidalgo, qui n'est pas toujours bien vécue et comprise par les automobilistes. En 10 ans, quelques 500 km de pistes cyclables ont été aménagées, alors que la voiture, elle, est de plus en plus persona non grata à Paris, de quoi alimenter les tensions. Du coup, les cyclistes, de plus en plus nombreux, sont régulièrement accusés de ne pas respecter les règles de la circulation. Et puis les automobilistes, de leur côté, sont accusés de ne pas faire assez attention aux cyclistes.
Merci Ariane. Et pour parler de cette cohabitation parfois difficile entre cyclistes et voitures, le plaisir de se revoir, Dimitri Marinchek, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes adjoint scientifique et chercheur à l'Observatoire universitaire du vélo et des mobilités actives de l'UNIL. Ce fait divers a fait beaucoup, beaucoup réagir. Il est emblématique d'une tension qui existe.
Oui, alors je pense tout à fait, parce que comme vous l'avez expliqué, c'est beaucoup plus qu'un simple accident, hein. C'est vraiment un geste de violence. En anglais, on parle de road rage pour parler de ce genre de phénomène, qui illustre vraiment cette tension entre automobilistes et cyclistes. Et puis qui illustre aussi vraiment l'inégalité constante en fait du rapport de force entre un vélo, un cycliste 80 kilos et puis une voiture qui peut faire plus de 2 tonnes sur la route. Mais c'est aussi quelque chose de très banal malheureusement. Donc on sait que la majorité des cyclistes vivent des situations dangereuses ou des agressions verbales régulièrement. Donc beaucoup de gens s'y retrouvent. Et puis finalement ça illustre le sentiment en fait. Du fait que beaucoup d'automobilistes, en fait, se considèrent comme les vrais usagers légitimes de la route et considèrent que les cyclistes ne sont pas usagers légitimes. Donc c'est ce concept de motonormativité, de voir la voiture comme l'usager légitime de la route.
Mais face à ça, qu'est-ce qu'on fait? On sépare davantage les zones cyclables ou pour la mobilité douce des routes?
Alors, je pense que c'est effectivement nécessaire. Je pense que il y a quelque part une impossibilité dans certaines situations de cohabitation due à des différentiels de masse et de vitesse entre les vélos et les voitures. Et on a en fait, comme dans le cas de cet accident, beaucoup de situations où en fait le cycliste n'a pas sa sécurité entre ses mains, elle repose entre les mains de l'automobiliste, et toutes ces questions de la priorité. Et puis on voit notamment dans les carrefours que très souvent le cycliste n'est pas responsable des accidents qui surviennent.
On a quand même le sentiment, Dimitri Marinchek, que ce fait divers, ce drame que nous a raconté Ariane Hasler, n'aurait pas pu se produire ailleurs qu'à Paris. C'est peut-être un petit peu caricatural, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des aménagements ou une culture qui explique que ce genre de choses puisse se produire?
Alors vraiment pas du tout. Je pense que on peut toujours s'imaginer que les tensions sont voilà plus élevées dans une grande ville, mais les aménagements qui sont à Paris, on a exactement les mêmes types d'aménagements, voire plus mauvais dans certains cas en Suisse. Donc cette cohabitation, c'est vraiment le quotidien aussi des cyclistes en Suisse, et le risque en fait n'est jamais très loin. Je pense que voilà, on a un acte isolé. Fondamentalement, les situations qui mènent à cet acte, elles peuvent se reproduire à peu près partout.
On sait si en Suisse, ces altercations sont en augmentation, cette violence motorisée augmente?
Alors, effectivement, donc nous, quand on interroge des cyclistes, on sait que la majorité, donc on parle des trois quarts, ont vécu des situations dangereuses et ou des altercations verbales, en fait, avec des automobilistes. Donc on sait que c'est vraiment quelque chose qui arrive au quotidien. Et puis, effectivement, ça fait partie d'un ensemble de situations avec les accidents, tout ce qu'on appelle les presque accidents, en fait, qui sont pas intégrés dans les statistiques. Donc, c'est beaucoup plus important, en fait, que des morts sur la route. Il y a un mort aujourd'hui, mais en général, c'est des choses qui arrivent tous les jours.
Vous diriez que c'est la même situation, finalement, en Suisse qu'à Paris?
Alors, la configuration de Paris est un peu particulière. Je pense que c'est à la fois une ville extrêmement dense avec beaucoup de trafic et où des changements très rapides ont lieu en peu d'années, et peut-être qu'il y a voilà une certaine frustration des automobilistes toute particulière, donc un climat peut-être aussi assez politisé de la mobilité. Mais voilà, c'est peut-être simplement amplifié par rapport à la situation qu'on connaît en Suisse.
Dimitri Marinchek, il y a des villes où il vaut mieux éviter de faire du vélo?
Alors, bien sûr, je pense que c'est une réalité. Je pense que il y a beaucoup de gens en fait qui ne font pas du vélo justement à cause de la sécurité. Donc ça reste le frein principal à la pratique du vélo, pas seulement en Suisse mais partout dans le monde. Ce qu'on voit, c'est que cette question de la sécurité, c'est vraiment une condition préalable pour que on ait une majorité de la population qui ose même s'aventurer dans la rue.
Dimitri Marinchek, adjoint scientifique et chercheur à l'Observatoire universitaire du vélo et des mobilités actives de l'UNIL. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Et Mathilde Maillard du PLR Lausannois est restée avec nous, de même que la verte Virginie Kyriakopoulos. Mathilde Maillard, le problème, ce sont ces automobilistes qui se considèrent comme les usagers légitimes de la route. C'est ce que nous disait ce chercheur. Est-ce que vous diriez que ce constat vaut pour votre ville, pour Lausanne?
Bon, puisqu'on parle de l'événement tragique qui s'est déroulé à Paris, peut-être commencer par présenter nos condoléances à la famille et aux proches de la victime décédée, et puis dire que personne autour de cette table ne défend les meurtriers. Or, vous l'avez dit en préambule, il s'agit là d'une enquête pour meurtre qui a été ouverte. Je crois que ce sujet s'éloigne un peu du débat et des enjeux sur la mobilité. Par contre, il démontre de manière tragique, peut-être, la nécessité d'organiser l'espace public pour que tous les modes de transport puissent cohabiter sereinement.
Organiser d'une manière plus optimale l'espace public, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement plus de pistes cyclables?
Oui, je crois qu'il faut faire des zones cyclables, des pistes cyclables sécurisées et aussi des routes destinées à la circulation pour les voitures.
Mais on voit qu'à Lausanne, par exemple, les pistes cyclables ont fleuri, notamment au temps du Covid, mais il y a encore beaucoup de cyclistes qui ne s'estiment pas tout à fait en sécurité. Ça veut dire qu'il suffit pas d'aménager ces pistes cyclables pour que le problème soit résolu?
Bah, le problème, c'est que la ville est pas, enfin, du moins, les routes qui traversent la ville ne sont pas extensibles à l'infini. Donc, je crois de la même manière qu'il y a des itinéraires piétons, on peut aussi admettre qu'il y a des itinéraires pour les voitures et qu'il y a des itinéraires pour les cyclistes. Et que, dans les trois cas, c'est pas forcément le chemin le plus direct, mais c'est le chemin destiné à ce mode de transport et le plus sûr.
Virginie Kyriakopoulos, vous êtes élue écologiste à Lausanne. Quelles sont les solutions que vous préconisez pour sécuriser davantage ou apaiser la cohabitation entre cyclistes et automobilistes?
C'est vraiment un enjeu pour nous, cette mobilité et la possibilité pour la mobilité douce de pouvoir circuler en toute sécurité. Il y a énormément de choses qui ont été faites. L'aménagement de pistes cyclables, le ralentissement des voitures, ce serait quelque chose qui est partiellement mis en route et pour d'autres raisons, mais qui pourrait tout à fait être poussé davantage, mais comme tous les aménagements qui sont faits pour ralentir la vitesse. Et puis, c'est vrai que pour les vertes et les jeunes vertes, les SUV et autres tanks urbains n'ont rien à faire en ville, et ça fait très longtemps qu'on le dit.
Virginie Kyriakopoulos, verte lausannoise, et Mathilde Maillard du PLR lausannois. Merci d'avoir été avec nous dans Forum ce soir. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci.
18h45 dans Forum. Juste avant d'entendre la star des médecins légistes belges, on va parler d'un barrage au cœur d'un bras de fer franco-suisse.
Oui, la centrale hydraulique de la Goule, située dans le Doubs. Elle pourra continuer de fonctionner, mais aux conditions imposées par la France. Vous nous l'apprenez, Célia Berthollet. La préfecture du Doubs a arrêté sa position hier soir. La quantité d'eau turbinée par la Suisse est un point de friction entre les négociations autour de l'exploitation de cette centrale suisse construite à la fin du 19e siècle.
Oui, c'était à l'époque la plus grande centrale hydraulique de notre pays. Elle alimentait par exemple l'usine Longines à Saint-Imier. Alors le Doubs étant une rivière binationale, il faut un accord entre la Suisse et la France pour l'exploitation de cette centrale. Le dernier accord en date arrivait à échéance cette semaine. Et le point sensible des négociations concerne le débit résiduel. Pour fonctionner, une centrale hydraulique utilise une partie de la force du courant de la rivière. Le courant restant qui n'est pas utilisé, c'est ce qu'on appelle le débit résiduel. Et la force de ce débit est régi par des normes, et ces normes ne sont pas les mêmes en Suisse et en France. Nos voisins sont plus stricts, ils laissent un débit résiduel deux fois plus élevé que les Suisses pour des raisons écologiques. Si le courant de la rivière change trop brusquement, les conséquences peuvent être néfastes pour les poissons.
Et jusqu'ici, on appliquait la norme suisse ou la norme française ?
Alors depuis 2017, il y avait un compromis. De novembre à mai, pendant la période de reproduction des poissons, la norme française était en vigueur, et de mai à novembre, le débit suisse. Alors il faut bien imaginer que plus le débit résiduel est élevé, moins la centrale hydraulique peut produire du courant. Ce changement de 2017 a fait baisser la production d'électricité annuelle de la Goule d'environ 20%.
Et aujourd'hui ?
Alors, la préfecture du Doubs a tranché hier, ça sera la norme française toute l'année. Décision que regrette le gouvernement jurassien. Le débit résiduel plus élevé des Français n'a pas d'impact positif sur la faune à cet endroit, selon un rapport d'experts. Pour les autorités, il était donc possible d'avoir un peu plus de production hydraulique sans nuire aux poissons. Mais disons que cette saga n'est pas terminée, on va reparler de concessions dans quelques années.
Pourquoi Célia ?
Alors il y a deux autres barrages sur le Doubs, également régis par des accords binationaux. Le projet serait d'avoir une seule concession pour ces trois usines et de répartir la production globale entre la Suisse et la France. Alors forcément, il va falloir s'entendre, mais déjà aujourd'hui, les deux pays ne semblent pas d'accord sur la date du début de cette future concession. Les négociations s'annoncent donc déjà compliquées.
Merci Célia Berthollet en direct de Bienne. 18h48, avant de se quitter, une rencontre avec la rockstar des médecins légistes.
Le Belge Philippe Boxo, qui a déjà écoulé plus de 200 000 exemplaires de son autobiographie La mort en face, sortie il y a quelques semaines. L'homme est aussi un phénomène sur les réseaux sociaux. Hier, plus de 500 personnes étaient à Lausanne pour suivre sa conférence. Ces deux séances de dédicaces prévues ce soir à Genève affichaient complète. Philippe Boxo, qui n'a pas son pareil pour raconter ses autopsies sur un ton pince sans rire, il a commencé par nous raconter l'une d'entre elles. Écoutez.
C'est une dame qui se trouve dans une cuvalet et qui est étouffée par son mari au sortir de la cuvalet. Donc elle est au centre de la cuve. Elle passe par un espèce de trou dans la cuve. Elle est poussée par la suffocation contre le trou de la cuve et se marque dans son dos une petite marque rougeâtre qui correspond au pourtour de cette cuve, là, ce contre quoi elle est appuyée. Et puis en même temps, l'homme, son mari, lui place un drap devant la bouche pour l'étouffer, pour l'empêcher de respirer. Ça s'appelle une suffocation chez nous. Et elle avait toutes les traces de suffocation. Mais l'histoire s'est un peu encombrée parce qu'elle était dans une cuve à lait et le mari tentait de nous faire croire qu'elle était morte noyée dans la cuve à lait. Et en fait, on a pu démontrer que pas du tout, vu les images histologiques, c'est les images que l'on a quand on regarde les structures pulmonaires au microscope, on a pu se rendre compte que ça ne pouvait pas être du tout une noyade dans le lait, contrairement à ce que son mari affirmait, mais que c'était bien une suffocation et l'enquête a démontré que c'était effectivement le mari qui en était le coupable. Voilà, ça c'est la toute dernière intéressante en fait que j'ai eu à réaliser.
Comment on se sent quand on découvre, en tant que médecin légiste, le petit détail qui avait échappé aux enquêteurs ?
Ah mais on est heureux, évidemment. Mais vraiment heureux. En fait, les enquêteurs n'examinent pas les corps, c'est nous qui le faisons. Et le dernier petit détail, c'est par exemple, ici, à la face interne de la lèvre inférieure, une lésion qui passe totalement inaperçue pour tout le monde, sauf pour le légiste, parce que c'est une chose à laquelle il est habitué de faire attention, et qui est la preuve qu'il y a eu une pression sur la bouche. C'est ce que cette dame que j'ai autopsiée qui sortait de la cuve avait, c'était cette marque sur la lèvre inférieure qui correspondait à une pression de la lèvre contre les dents. Et cette pression ne peut se faire que si on comprime de l'extérieur. Et donc, on avait la preuve qu'elle avait été suffoquée. C'est pas la première fois que ça arrive, hein, dans ma carrière, c'est déjà la troisième fois. C'était passé totalement au bleu, c'est-à-dire inaperçu, pour tout le monde, sauf pour le légiste. C'est vraiment une marque à laquelle nous devons avoir un particulier intérêt, une particulière attention.
Philippe Boxeau, vous aimez dire qu'il faut rire de la mort avant qu'elle nous sourie. Pourquoi est-ce important de rire de la mort ?
Que ce ne soit plus un tabou dans notre société, c'est un tabou, on ne parle pas de la mort, on n'aime pas voir les morts la plupart du temps d'ailleurs, quand vous allez dans une mortuaire, les cercueils sont fermés, c'est quelque chose, un moment de la vie pourtant qui est important, c'est le dernier, c'est important pour celui qui va le vivre, c'est très important aussi pour la famille parce que eux vont avoir à vivre les conséquences de ce décès, mais c'est un moment important par rapport auquel on a tendance à le tabouifier, comme j'ai dit, c'est-à-dire à en faire un sujet complètement tabou. Alors effectivement, la mort est dramatique, pas pour celui qui meurt, parce que lui s'en fout, il est mort. Mais elle est dramatique pour ceux qui restent. Et en rire est une façon pour moi de la neutraliser. C'est une façon pour moi de ne plus la sentir comme étant absolument prégnante, quoi.
Est-ce que vous diriez que le fait de faire parler les cadavres comme vous le faites depuis une trentaine d'années vous a justement libéré de la peur de la mort ?
Eh bien oui, ah oui, tout à fait. Bon, j'avais déjà pas trop peur avant, parce qu'objectivement, si vous entrez en médecine légale en ayant peur de la mort, vous allez avoir des problèmes, ça va pas bien se passer, hein. Mais si vous êtes en médecine légale, que vous parvenez à avoir cette distance par rapport à la mort, et puis ensuite, à force de voir des morts, à force de voir des défunts, la trouver comme un phénomène qui finalement est tout à fait naturel, c'est un des phénomènes les plus naturels qui soit avec la naissance, c'est le fait de mourir. Eh bien, clairement, vous réglez votre problème par rapport à la mort. Aujourd'hui, je n'en ai pas peur. J'ai peur, évidemment, d'une certaine manière de mourir qui serait de grandes souffrances, comme brûler vif ou noyer. Ça, c'est deux choses que je ne souhaite pas. En même temps, j'aurais pas nécessairement le choix. Hein. Mais peur de la mort en soi, je n'en ai plus.
Philippe Boxeau, on vous présente comme l'homme qui rend glamour la médecine légale. Une rockstar, écrivait même Le Soir quotidien belge. On vous demande des autographes, des selfies dans la rue à Liège. Mais vous dites que la mort reste un tabou dans la société. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de contradictoire finalement ? Comment vous expliquez votre succès ?
J'ai dû demander au lecteur pour savoir pourquoi ce succès existait. J'avais rédigé le premier bouquin pour attirer l'attention de l'État belge sur notre situation qui est particulièrement déplorable. Hein. On est en train de crever, pour parler poliment. On est passé de 42 médecins légistes en 2000 à 24, 12 formés, 12 en formation. Aujourd'hui, c'est vraiment une catastrophe. En Belgique, la situation est catastrophique et notre gouvernement n'y prête aucune attention. Ce qui a le don de m'énerver, bien entendu. Et comme le gouvernement, de toute façon, ne nous prête aucune oreille, je me suis dit, je vais parler de mon métier. Une maison d'édition est venue me trouver et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de lancer un bouquin. Ce bouquin se veut de manière à faire connaître la médecine légale tant auprès du public qu'auprès du gouvernement. À aucun moment je n'ai pensé que ce serait un succès pareil. Aucun. Et j'étais moi-même hyper surpris de ce succès. Donc j'ai demandé au lecteur, mais pourquoi est-ce que vous aimez mes histoires ? Il me donne trois raisons. Un, l'histoire sont courtes. On n'est pas obligé, en commençant le bouquin, d'aller jusqu'à la fin le même jour. Ni, on peut le laisser traîner. Voilà, on n'est pas tenu. Deux, il y a un ton qui est assez marrant, assez comique, finalement, dans mes histoires, qui leur plaît. Et puis trois, ce sont des histoires vraies. Donc, l'histoire est effectivement vraie sur le plan médico-légal. Et puis, autour, j'ai romancé, parce que j'ai pas envie qu'on reconnaisse, hein. J'ai pas envie que des gens puissent identifier ce dont je parle, même si, ni légalement, ni déontologiquement, c'est interdit. Mais voilà, je préférais que ce soit comme ça, par respect pour les familles. Alors, moi, je ne m'estime pas une rockstar, et je vous avoue que ça glisse complètement sur la carapace de mon indifférence. Je suis content que les gens soient contents, mais pour ma part, je m'en fous, je continue à vivre tout à fait normalement, et quelque part, je vous avoue que ça m'encombre, parce que je ne sais plus faire trois pas sans qu'on me reconnaisse dans la rue. Mmh. En Belgique, hein, en Suisse, ça va. Je peux me balader tant que je veux, là, c'est bon, je suis content. Enfin, je peux me promener. Mais et j'ai envie, à un moment donné, que ça s'arrête, parce que c'est un système dans lequel je ne veux pas rentrer. Je m'y suis retrouvé là un peu à l'insu de mon plein gré, comme dirait un autre, mais clairement un jour ça va s'arrêter parce que je veux pas que ça continue. Voilà.
Philippe Boxeau, vous racontez donc des histoires vraies, vous les racontez d'une manière relativement détachée. Est-ce qu'il y a certaines histoires que vous vous interdisez de raconter,
oui,
par pudeur, par respect pour les morts?
Parce que ce que j'ai voulu présenter, c'est de la médecine légale de tous les jours, donc ce sont pas des affaires exceptionnelles. Dans le premier bouquin, effectivement, ce sont des cas exceptionnels, parce que c'est vraiment des trucs qui n'arrivent qu'une fois dans une carrière. Quand ça arrive dans une carrière, un gars qui se flingue avec 14 coups de feu, il faut voir ça un jour, quoi. J'ai plus jamais eu ça. Et aujourd'hui, il est toujours record mondial du nombre de coups de feu pour un suicide avec ce type d'arme-là. Donc ça, effectivement, là, c'est des cas particuliers. Mais ensuite, dans les deux autres bouquins, je raconte l'histoire de la médecine légale de tous les jours. L'idée, c'est de montrer à quoi sert la médecine légale et qu'un médecin légiste est quelque chose d'utile dans un processus judiciaire pénal, que c'est quelque chose d'utile dans un état de droit pour ne pas qu'on nous néglige. C'est ça l'idée. Je voulais pas faire du sens, j'arriverai jamais à dire à ce moment-là.
Sensationnalisme.
Voilà, je vous remercie. S'il y a quelques mots comme ça sur lesquels je bute toujours. Je voulais pas faire ça, je voulais pas non plus que ce soit du voyeurisme, mais je voulais expliquer à quoi servait mon métier. Et donc, vous avez raison, il y a des histoires que je m'interdis de raconter. On a eu à Liège deux attentats djihadistes, je les raconte pas. On a eu à Liège deux maisons qui sont effondrées, 14 morts, une station-service qui a explosé, 21 mort et d'autres situations comme celle-là, je raconte pas. Parce que c'est pas la médecine légale de tous les jours. On est dans l'exceptionnalité, je n'ai pas envie d'en parler.
Médecin légiste, un métier de l'ombre mal présenté dans les séries télé, dites-vous, en quoi est-il mal présenté?
Mais d'abord, quand vous regardez les médecins légistes qui sont présentés dans ces fameuses émissions, ces séries américaines, disons-le clairement, soit c'est une femme et c'est un canon de beauté, soit c'est un homme et il a un problème ou physique ou mental qui permet d'expliquer qu'il ne s'est pas tourné vers la médecine curative et qu'il a fait la médecine légale par défaut. Ça, c'est la première chose. Ça m'énerve. Parce que, bon, je suis pas beau, j'ai pas dit ça, mais je suis normal, quoi. J'ai pas d'handicap connu. Hein, j'ai rien de particulier, je suis quelqu'un de tout à fait normal, très différent de ce qu'on voit dans les séries américaines. C'était la première chose. Et puis la deuxième, c'est que ils vous inventent carrément des lésions qui n'existent pas. Ils vous inventent carrément des trucs que l'on pourrait trouver dans le corps rien qu'en le regardant, qui n'existent pas. Ils vous trouvent une façon d'évaluer le moment du décès qui n'existe pas, qui laisse croire à tout le monde qu'on peut être fixe sur le moment du décès et dire, ben voilà, c'était 23h, 52 minutes et 30 secondes. C'est pas vrai. Et tout ça, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est donner une mauvaise image de notre métier, c'est pas à ça qu'on sert. Et d'autre part, nous ne sommes pas non plus des enquêteurs. On fournit à l'enquête des éléments, aux enquêteurs des éléments, c'est eux qui vont trouver l'auteur, c'est pas nous. Voyez ? Donc il faut pas nous faire jouer ce rôle-là.
Et vous qui n'êtes pas donc un personnage de série ou de film, Philippe Boxeau, pourquoi vous êtes-vous orienté vers la médecine légale ? Je crois que vous songiez à la prêtrise à la base.
Alors j'étais dans un milieu qui était effectivement très catholique, très protégé, j'étais un collège catholique, etc., dans une espèce de bulle dans laquelle je me sentais bien, et j'adorais étudier l'évangile, j'adorais en faire l'exégèse avec des jésuites et avec des gens compétents, j'adorais la philo et la théologie, donc voilà, je me sentais bien dans ce milieu-là, j'avais pas envie de le quitter, et je m'étais dit que devenir prêtre était une bonne idée. J'ai rencontré l'évêque de mon diocèse, c'était à Lourdes, et y a pas eu de miracle, hein. Il m'a clairement... orienté plutôt vers des candidatures, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, aujourd'hui on appellerait ça plutôt des baccalauréats, je crois. en Suisse, en tout cas en Belgique, c'est des bacs. Et je me suis dit, bon, je vais pas faire la philo ni la théo, parce que de toute façon, je vais la faire. Je vais choisir autre chose, et j'hésitais entre la médecine et le droit. Et c'est vraiment par hasard que j'ai fait un bac en médecine. Et puis que ça m'a plu, que j'ai voulu continuer la médecine. Et en sortant de ce milieu dans lequel j'étais bien inséré, c'était un cocon, hein, dans lequel je me trouvais bien, je me suis rendu compte que, je voulais plus être prêtre. J'étais rencontré mon évêque pour lui dire, quand même. Et il m'a dit, ben oui, effectivement, j'avais l'impression que votre foi était pas la foi du charbonnier, pas une foi du cœur, mais plutôt une réflexion de l'esprit. Et c'est passé à la foi, me dit-il. Et il avait raison.
Philippe Boxeau, médecin légiste belge, actuellement de passage en Suisse romande. Il nous a accordé cette interview dans l'après-midi. On rappelle au passage le titre de son autobiographie parue il y a quelques semaines, La mort en face, le médecin légiste qui fait parler les morts. Tout de suite, la météo.
Avec beaucoup de nuages et d'averses demain au programme, surtout en première partie de journée, limite plus neige vers 2800 mètres. C'est en Valais, sur le bassin lémanique, que les éclaircies seront les plus généreuses l'après-midi et en fin de journée. Minimum 12 degrés jusqu'à 19 degrés en Valais, samedi généralement sec et assez ensoleillé après dissipation des grisailles matinales.
Infotrafic RTS.
Sur l'autoroute Lausanne-Vevey, un accident provoque toujours un important bouchon entre Lausanne-Blecherette et Chèbre en direction de Vevey. Sur le contournement de Genève, on roule au pas entre l'aéroport et la douane de Bardonnay en direction de la France.
Forum, c'est terminé pour aujourd'hui. À la technique ce soir, il y avait David Chapuis, Igor Imhoff, Colin Courte et Ludovic Labra. À l'édition et à la production, Jonas Dubois, Thibaut Chaleur et Benjamin Pavelec. Demain, vous allez retrouver Valentin Emery et Julien Mangarter dans Forum. Excellente soirée à tous.
Retrouvez Forum en vidéo sur rtsinfo.ch, RTS Info en continu et sur les réseaux sociaux.